Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Jean-Loup Meureau, agriculteur spécialisé dans les moutons, installé à Vacherin-Quin et qui fait partie de la conf, ainsi que Simon Perrin, qui va se présenter très bientôt car c'est assez compliqué, et qui sont venus tous les deux parler de la condition des saisonniers agricoles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Jean-Loup, on ne te présente plus, tu es déjà passé plusieurs fois dans les studios de RDWA et dans le DIWA, tu es connu comme un loup blanc, si je dois me permettre.
Ça ne va pas être bon pour les brebis. Hein.
Non, c'est pas bon. Et puis Simon, tu vas peut-être te présenter avant de commencer à parler du corps du sujet.
Voilà, donc moi je suis venu accueilli par la conf de la Drôme, puisque je suis volontaire sur le programme Agriculture paysanne et travailleurs migrants saisonniers, qui est un programme qui est mis en place par la Confédération paysanne au niveau national et la Via Campesina, par le biais aussi d'une association qui s'appelle Échange et Partenariat, et dont le but est d'en savoir plus sur les conditions de travail des migrants, puisque dans une analyse internationaliste, ce qu'on peut constater, c'est que des personnes se retrouvent en situation d'expatriation. Des personnes qui auparavant étaient paysans dans le monde se retrouvent salariés, se retrouvent même parfois dans des situations d'exploitation absolument inacceptables dans différents pays européens. Et donc, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe en France cette année.
Très bien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. C'est pour parler de la condition des travailleurs agricoles en France et en Europe peut-être. On va peut-être pas aller au-delà. Pourriez-vous nous résumer un petit peu ce qui vous inquiète et ce contre quoi vous vous battez ?
D'abord, on peut dire que le travail saisonnier dans l'agriculture, c'est assez répandu. Hein. Bon, je ne connais pas bien les chiffres du nombre de travailleurs saisonniers, mais y compris dans l'élevage, hein, parce que si on prend par exemple le DIWA ou la Drôme avec la transhumance, eh ben, y a beaucoup de jeunes qui sont bergers et qui sont en fait des saisonniers qui font le travail le temps de la saison d'alpage. Bon, en ce moment, c'est les vendanges, donc il y a aussi massivement dans le DIWA des travailleurs saisonniers. Et puis dans la Drôme, dans la vallée du Rhône, il y a beaucoup d'exploitations arboricoles et viticoles qui emploient beaucoup de saisonniers. Pour un syndicat agricole, c'est une préoccupation, l'emploi saisonnier, hein, voir les conditions dans lesquelles il se déroule.
Ah, c'est pas la préoccupation de tous les syndicats, c'est la préoccupation de la Confédération paysanne. Parce que le syndicat majoritaire, la FNSEA, ainsi que d'autres fédérations, fruits et légumes, etc., eux demandent depuis des années voilà, un abaissement des normes sociales et environnementales pour pouvoir faire face à la compétition internationale, alors qu'il faut absolument jouer sur les prix et sur la valeur des produits et non pas sur les charges salariales qui ne sont pas des charges.
Et alors Simon, je crois que tu avais quelques données chiffrées, par exemple sur la vallée de la Drôme, qui est, je crois, le plus gros département saisonnier de France, hein, si je ne m'abuse.
Ouais, alors c'est ça, dans la Drôme, il y a 30 000 saisonniers qui travaillent chaque année quoi, environ. Donc beaucoup en arbo, également sur la viticulture. Au niveau de la France, pour les vendanges, c'est 40 000 au total. Bon, on compte près de 800 000 saisonniers entièrement sur toute la France. Quoi.
On pourrait dire que ce secteur ne tournerait pas sans eux. Quoi.
Tout à fait, oui.
Ouais, c'est évident.
Pour en revenir à nos moutons, tu t'apprêtais à dire, Jean-Loup, quelques autres notions.
Donc, comme a précisé Simon, souvent les saisonniers apparaissent, notamment dans la production de fruits et légumes, comme une variable d'ajustement, hein, dans la compétition internationale. Les producteurs, par exemple, de fruits français face aux producteurs allemands, on sait qu'en Allemagne, les salaires qui sont payés aux travailleurs des plantations sont beaucoup plus bas qu'en France. Donc la tentation est grande pour certains d'agir sur les conditions sociales des saisonniers pour augmenter leur marge. Et il faut voir les infractions au droit du travail qui peuvent être faites du fait de ces situations. Quoi.
Si on peut préciser du coup ce qui se passe depuis des années, des décennies en fait, même au niveau européen entièrement, c'est on va faire appel à une main d'œuvre étrangère. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas tous les agriculteurs, évidemment, loin de là. Bon, voilà, dans la Drôme, dans le DIWA, il y a encore beaucoup de saisonniers locaux, de jeunes, de moins jeunes, des personnes qui ont l'habitude, d'autres qui font ça une fois, etc. Mais sur des grosses productions très spécialisées, on va trouver un modèle au niveau européen, c'est on fait appel à une main-d'œuvre étrangère. Pourquoi ? Parce que une main-d'œuvre qui vient d'un pays plus pauvre, tout simplement, quoi, va être beaucoup plus motivée à venir travailler pour des travaux très durs, qui sont les travaux saisonniers. Sur des grosses exploitations, en plus, on ne va pas faire une saison sur un mois avec l'abricot, le bergeron, mais plutôt sur 4 mois. On va étendre les variétés pour... voilà. Donc ça fait une somme de travail qui est absolument colossale sur du ramassage ou des très très grosses vendanges. Et donc c'est 10 heures par jour, 12 heures par jour. Donc des personnes qui viennent d'un pays plus pauvre sont plus motivées à venir travailler. Et ça, en fait, c'est même organisé par les différentes réglementations. Donc il y a eu pendant longtemps, et il y a toujours, les contrats qui passent par des accords bilatéraux avec la Tunisie, le Maroc. Auparavant la Pologne, maintenant la Pologne fait partie de l'Europe, donc ce n'est plus le cas. Et qui organise en fait une migration sur 4 mois, 6 mois. Et quand c'est fini, il faut repartir au pays. Et donc là, si vous voulez, pour un Marocain qui vient pendant 4 ou 6 mois, le seul moyen d'être sûr de pouvoir revenir l'année prochaine, c'est que ça se passe bien, très bien avec son employeur et jusqu'à accepter des conditions finalement qui sont absolument lamentables et qui existent encore. Malheureusement, on a eu quelques témoignages sur le département de la Drôme, donc des personnes qui sont excessivement mal logées, qui sont isolées, qui ne sont pas chauffées, qui n'ont pas... Enfin voilà. Alors, c'est sûrement pas une majorité sur la Drôme, mais ça mérite d'être extrêmement vigilant, quoi.
Y a-t-il des contrats particuliers qui lient ces employés à leurs employeurs ? Y a-t-il des contrats spécifiques par rapport à leur pays d'origine ?
Pour les saisonniers marocains et tunisiens, donc c'est des contrats qui passent par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui était avant l'Office des migrations internationales. Donc c'est à la demande de l'employeur de pouvoir demander à un saisonnier, voilà, en contrat, le faire venir, un, plusieurs, etc. Donc il y en a qui font ça depuis des années, peut-être même des fois c'est de génération en génération. Il y a d'autres formes qui ont émergé dans les années 2000 et qui ont pris encore plus de place en définitive parce que les personnes en contrat saisonnier tunisien-marocain OMI, donc, qui passe par l'OFI, il y a eu quand même un certain nombre de mobilisations et de revendications parce que ces personnes-là, vous voyez, leur contrat qui était prolongé même jusqu'à 8 mois sur l'année. Donc ça devenait des personnes qui travaillaient de manière permanente et qui étaient privées de leurs droits sociaux habituellement pour n'importe quel résident et n'importe quelle personne en France qui travaillerait 8 mois par an, quoi, qui serait considérée comme permanent, quoi. Donc il y a eu des mouvements revendicatifs, surtout dans les Bouches-du-Rhône, il y a plus longtemps dans la Drôme aussi. Et finalement, ça aboutit à ce qu'un certain nombre de ces saisonniers obtiennent des titres de séjour, des cartes de séjour pour 10 ans. Donc, ne deviennent plus les esclaves, en définitive, de la bonne volonté du patron, mais deviennent des personnes plus libres sur le territoire français qui travaillent. Et ça, c'est devenu moins intéressant pour un certain nombre de patrons qui voulaient continuer à finalement profiter de ces dispositifs-là, quoi. Donc, ce qui s'est développé à côté, c'est clairement la prestation de service et le travail temporaire international. Donc là, la réglementation européenne, en fait, avait mis au point une réglementation pour le détachement de travailleurs. Donc des personnes, en fait, qui sont dans une entreprise en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie ou ailleurs, donc dans un pays européen, pour une tâche spécifique, bien spécifique, ou pour un afflux bien spécifique d'activités, vont être détachés de leur entreprise pour venir travailler dans un autre pays européen. Voilà. Donc ça, c'était censé répondre, voilà, à des critères bien spécifiques. En définitive, ça s'est généralisé à des emplois qui ne sont pas qualifiés. Et donc, en fait, on a des équipes qui viennent en bus de Roumanie, de Bulgarie, etc. Et d'Espagne, une très grosse entreprise de travail temporaire espagnole. Et donc, les personnes viennent, voilà, sur commande de l'exploitant agricole, mais c'est dans d'autres secteurs aussi, hein, le bâtiment, etc. C'est très répandu. Sur commande, donc, va faire venir une équipe pour tel et tel travaux. Il va payer un forfait par rapport à ça. Et les cotisations sociales, dans le cadre de ce dispositif, les cotisations sociales, elles sont payées au taux du pays d'origine de ces personnes-là. Donc, ça fait une main-d'œuvre moins chère. Alors, c'est critiquable déjà, bon, en l'état, quoi, hein, c'est-à-dire que ces personnes ne puissent pas cotiser en France, etc. Ce qui est d'autant plus dramatique, en fait, ce sont les fraudes qui découlent de ces dispositifs-là, avec en fait des entreprises qui font des montages sociétaires, donc entreprise sur entreprise sur entreprise. Et au final, on ne sait plus à qui s'adresser pour savoir les personnes, elles sont payées combien, comment elles travaillent, depuis quand elles sont là, etc. Et donc, en fait, il y a un vrai problème pour les inspections de contrôler voilà, l'état des conditions de travail et de rémunération de ces personnes-là, avec des cas qui sont allés alors plus sur d'autres pays européens, qui sont allés jusqu'à voilà, des cas de traite d'êtres humains. Quoi. On n'est pas à l'abri de ça. Il y a 5 jours dans la Marne, pour les vendanges en Champagne, 240 saisonniers polonais ont été trouvés donc entassés dans une maison à 12 par chambre. Voilà, c'était un intermédiaire qui les avait fait venir, donc excessivement mal logé, donc un logement qui n'était pas du tout aux normes. Et en plus de ça, avec 700 kilos de nourriture avariée, enfin, on est dans le cauchemar, quoi. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la Marne et il faut absolument être vigilant, quoi, sur ce qui se passe.
Oui, il faut dire que cette forme de contrat entre les agriculteurs français et ces sociétés prestataires de services, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Une des raisons pour laquelle ça se développe, c'est que l'agriculteur français, il reçoit une facture de l'entreprise qui amène les travailleurs. Il paye sa facture et puis c'est tout. Il n'a aucune démarche à faire vis-à-vis des organismes sociaux.
Ni des fiches de paye auprès des travailleurs étrangers.
Voilà, il n'a pas de fiche de paye. C'est l'entreprise qui fait le... Voilà.
L'administratif.
Donc cet aspect administratif, c'est une des raisons pour lesquelles... Cette forme de contrat, elle se développe beaucoup ces dernières années. Il faut dire, je crois qu'il y a une disposition légale nouvelle, c'est apparemment depuis juillet dernier, une loi qui obligerait ces entreprises prestataires de services à avoir un siège dans le pays où se fait le travail, c'est-à-dire bon, pour nous en France. Et ce qui fait qu'ils seraient sans doute obligés de contribuer au régime social français, quoi.
Alors, il y a eu donc une nouvelle réglementation au niveau européen, même pour essayer d'encadrer un peu mieux ça. Mais il faut voir que, en fait, le projet européen, c'est quand même un marché intérieur qui soit libre. Bon, je ne sais pas si on peut dire libre. Bon, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des dispositifs de circulation migratoire. Alors, circulation migratoire, ça veut dire on veut bien que les personnes migrent entre les différents pays, mais il faut que ça soit rentable économiquement, quoi. Donc on organise cette histoire de cotisation sociale payée dans le pays d'origine pour encourager voilà, la constitution d'un marché intérieur en Europe qui arrange bien finalement les libéraux, etc., quoi, hein. Plutôt que de niveler vers le haut, on va quand même niveler vers le bas. Il y a donc eu une réglementation quand même au niveau européen, bon, pas mal sous la pression de pays, on va dire voilà, plutôt la vieille Europe, pour bon, voilà, mettre un frein quand même aux abus qui sont absolument inacceptables. Et puis en fait, les États n'arrivaient plus à contrôler même la législation du travail sur leur pays, puisqu'en définitive, ils étaient même attaqués par la Commission européenne pour non-respect de la libre prestation de services, quoi. C'est-à-dire que s'ils voulaient imposer plus de contrôle par rapport à ces travailleurs détachés sur leurs conditions de travail, leurs conditions d'hébergement, etc., affiliation et compagnie, on leur disait non, quoi. Vous ne pouvez pas remettre en cause la liberté de prestation de services, etc. Voilà. Donc il y a eu une réglementation pas beaucoup plus contraignante, qui précise un peu quelques notions, mais en France, une loi qui a voulu être plus contraignante et donc qui a été votée en juin dernier, qui veut rendre responsable le client de la prestation au même titre que le prestataire de service. C'est-à-dire que, justement, cet agriculteur, par exemple, hein, parce que donc, c'est aussi énormément dans le bâtiment, dans l'industrie, etc., ce patron qui fait appel à ses boîtes de prestation n'avait juste qu'à payer sa prestation, et c'est le prestataire lui-même qui était responsable des conditions d'hébergement, des conditions de travail, des conditions de rémunération. Avec cette loi-là, dorénavant, le client de la prestation, l'agriculteur, le patron dans le bâtiment, est responsable, dorénavant, des conditions d'hébergement et des conditions de travail et de rémunération. Et s'il y a un manquement aux rémunérations, il doit payer lui aussi de manière complètement solidaire avec le prestataire. Alors, il faut voir que nous, voilà, il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'ils avaient payé des ouvriers polonais 2,34 de l'heure, quoi. Donc, c'est ce qui peut arriver, quoi.
Quand tu donnes des chiffres pareils, on quid des heures supplémentaires, quoi, hein. Ça n'existe pas, quoi.
Bon voilà, il y a des très grosses entreprises maintenant qui sont sous surveillance, des très grosses entreprises donc de détachement de main d'œuvre hein, qui sont sous surveillance quand même, donc qui apparemment sont un peu obligées de respecter législation, etc. Bon après voilà, c'est sûr que les heures supplémentaires de toute façon c'est le truc le moins respecté on va dire au niveau du droit du travail en général. Après il faut pas.
Comment peut-on évaluer l'ampleur du problème ? Y a-t-il à ce point des travailleurs saisonniers étrangers dans nos contrées ? On ne se rend pas forcément compte quand on ne fréquente pas le milieu agricole ou le bâtiment et le BTP, quoi. Il y en a beaucoup ?
Dans le secteur de l'arboriculture et de la viti, dans la vallée du Rhône, oui, je pense, il y en a.
Il y en a, en fait.
J'ai pas de chiffres, mais.
Alors le problème, c'est les chiffres. C'est qu'en fait, il faut se battre pour avoir des chiffres parce que c'est un sujet épineux. Enfin voilà, c'est toujours aussi sujet à bon voilà les discours du Front National ou quoi qui vont dire voilà on veut une main d'œuvre française etc machin. Donc je pense que les autorités qui ont des statistiques là-dessus font quand même gaffe. Alors on a des chiffres au niveau national, des estimations en fait hein, parce que de l'aveu même du ministère du Travail. Il n'y a que la moitié des travailleurs détachés qui étaient déclarés en tant que tels. Donc des déclarations de détachement de travailleurs.
Il y a encore du travail au noir en plus.
Voilà, si elles ne sont pas déclarées comme détachées, oui, c'est pas forcément qu'elles ne sont pas du tout déclarées, mais disons que les détachements ne sont pas déclarés. Bref, en tous les cas, ça équivaut environ à 300 000 travailleurs détachés en France, tous secteurs confondus. Sur le secteur agricole, on pourrait dire 15 000. Voilà, si on suit, parce que les chiffres officiels, c'est 7 000, 8 000 au niveau agricole. Alors après, le travail temporaire comptabilisé différemment du travail agricole, etc. Mais bon, c'est à peu près ça. Et si on double, donc, on arrive à 15 000. Et ce qui est intéressant avec ce chiffre-là, c'est qu'en fait, ça correspond au chiffre des travailleurs marocains et tunisiens en contrat OMI il y a 10 ans en arrière.
Ce qui veut dire ?
Ce qui pourrait dire qu'effectivement, il y a ce phénomène de substitution, quoi, du travailleur OMI au travailleur détaché, quoi.
Qu'est-ce que la Confédération paysanne préconiserait alors pour changer ce problème épineux, comme vous le dites ?
Des conditions de travail qui soient égales pour tous les travailleurs.
Ah oui, c'est ça. Des conditions de travail, de rémunération.
Donc en fait, ça ne devrait pas être basé sur les conditions du pays d'origine, mais du pays dans lequel les travailleurs officient réellement.
Ouais. Bien sûr.
Et donc, ils cotiseraient à toutes les charges sociales et donc seraient pris en charge en cas d'accident par la sécurité. Parce que qu'est-ce qui se passe effectivement pour ces braves gens quand ils ont un accident du travail ?
C'est jusqu'à présent, c'était l'entreprise prestataire qui était responsable.
Qui s'en chargeait, quoi.
Le travailleur, il disparaît, en fait, s'il y a un accident. Il est de retour dans son pays d'origine, quoi.
C'est ça qui était alléchant pour les agriculteurs français. C'est qu'ils n'avaient qu'une facture de main-d'œuvre par l'entreprise prestataire, mais ils n'étaient pas responsabilisés sur les conditions de travail des travailleurs, quoi, sur leur vigne ou leur plantation, quoi.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est finalement, voilà, qu'est-ce que c'est que ces régimes où on a des intermédiaires qui font finalement du marchandage de main-d'œuvre, etc. Enfin voilà, il faut être extrêmement vigilant. Il faut se poser la question aussi, quoi, hein, sur ces contrats saisonniers pour 6 mois. Bon voilà, est-ce que c'est des choses qui doivent perdurer parce qu'on n'arrive pas à payer convenablement les producteurs de fruits et légumes ? En Grèce, c'est carrément sous surveillance de milices fascistes qu'il y a des Bangladais ou des Pakistanais qui travaillent dans les champs. Est-ce que ça veut dire que le secteur agricole, toute proportion gardée entre les différents pays, etc., mais le secteur agricole, c'est finalement le secteur où on va tenter d'avoir un minimum de droit du travail possible, quoi. Même pour des saisonniers français, etc., il faut quand même voir que le droit du travail au niveau agricole, on peut autoriser des prolongations de la durée journalière de travail jusqu'à 12 heures par jour. Ça, la Confédération paysanne, Jean-Louis, je te laisse le dire.
Ben oui, c'est pas acceptable, quoi. Bon, on a parlé beaucoup des vignes et des arboricultures parce que c'est le plus gros secteur agricole qui est un employeur de main-d'œuvre, mais dans d'autres branches aussi, y compris dans l'élevage, il y a cette exploitation de la main-d'œuvre, quoi. Et notamment, j'ai évoqué tout à l'heure, dans les alpages,
Les bergers.
Les bergers, oui.
Il y a des bergers qui viennent de Pologne.
Il faut dire que les bergers, bon, y compris des bergers français, hein, Il y a une association dans les Hautes-Alpes, des bergers, qui s'est battue pour des conditions décentes, notamment de logement sur les alpages, et sur les salaires aussi, pour mettre ça au même niveau que les autres travailleurs de l'agriculture, quoi.
Bref, tout ceci n'est pas rose, et c'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui alertiez l'opinion. Hein. Bon, vous êtes des empêcheurs de tourner en rond, sans doute. Oui, on vous prend pour des casse-noix, non pour, ouais. Enfin, vous avez l'habitude, sans doute.
Mais il faut... Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que pour nous, à la Confédération paysanne, je dirais que c'est un peu un devoir internationaliste, quoi. La Confédération paysanne défend l'agriculture paysanne et ses travailleurs, hein, c'est sa devise. On défend les paysans d'ici, mais paysans d'ici, paysans d'ailleurs aussi. Et on se bat pour la souveraineté alimentaire des peuples, c'est-à-dire que les paysans de partout dans le monde puissent vivre décemment de leur travail en ayant une intervention, une maîtrise sur le commerce des produits agricoles pour que chaque pays puisse nourrir sa population et que les prix agricoles ne soient pas aux mains des grandes compagnies sous la dictature des marchés, quoi. Voilà. Après, c'est l'aspect de la main-d'œuvre, mais c'est aussi ces compagnies qui, on le voit en Afrique, qui mettent la main sur les terres, qui expulsent, avec la complicité de certains gouvernements, qui font des propriétés énormes, des milliers d'hectares, en expulsant les paysans. Et après, ces hommes et ces femmes se trouvent sans ressources, ils sont affamés, et c'est une des raisons pour lesquelles ils viennent vers les pays européens pour trouver de quoi vivre, quoi. Donc c'est une politique globale. Vous savez, il va y avoir des élections aux délégués de la MSA en janvier prochain. Je pense que c'est donc à propos des droits sociaux des agriculteurs, mais aussi des salariés agricoles, parce que la MSA, c'est l'organisme de sécurité sociale des agriculteurs, mais aussi des salariés agricoles. Et je pense que cette campagne électorale professionnelle, c'est aussi une occasion pour nous de reparler de ces questions et de concert avec les syndicats qui vont présenter des listes, des syndicats à la fois professionnels agricoles, mais aussi des salariés agricoles.
Mais ça se passe dans le sérail. Est-ce que nous, grand public, on sera au courant des tenants et aboutissants? Pas forcément.
c'est à nous de faire écho de ces questions dans notre presse et dans des émissions comme vous faites, là, voilà, où on a tous la parole.
Ah ouais, ça je le répète, c'est un des slogans de Erdiwa. On vous dit tout, on vous cache rien. C'est le contraire de la chanson de Jacques Dutronc.
Moi, je voudrais juste dire une dernière chose. C'est pas qu'il y ait 1 million de syndicats de paysans en France, enfin syndicats d'employeurs. La Confédération paysanne, qui a une histoire de syndicats de travailleurs paysans, fait perdurer quand même une tradition où on n'est pas sur employeurs confrontés à employés, qui est loin d'aller de soi pour d'autres organisations de défense de travailleurs, justement. C'est quand même quelque chose d'assez formidable de faire ce pas-là, d'avoir cette ouverture-là et un engagement qui n'est pas de frontières, quoi. Les paysans s'engagent pour leurs revenus, pour défendre le statut de paysan. Ils s'engagent aussi pour que les travailleurs soient considérés de manière humaine et respectés dans leurs droits, quoi.
Oui, je pense que si on a cette préoccupation à la conf aussi, c'est que beaucoup d'adhérents ou de militants du syndicat... Au début de notre vie professionnelle, on est tous, beaucoup de collègues sont passés par cette phase de travail salarié et notamment saisonnier. Donc on a connu
l'exploitation de l'homme par l'homme.
Peut-être pas aussi durement tel qu'on l'a décrit pour les travailleurs étrangers, mais on sait ce que c'est aussi que le travail saisonnier, quoi.
Existe-t-il des organismes pour représenter ces travailleurs étrangers saisonniers ?
Il existe quand même très peu de relais, de manière très pragmatique, pour ces personnes qui sont en situation de migration, pour trouver une oreille à leurs problèmes qu'ils peuvent rencontrer, etc. Parce qu'ils ne sont pas toujours enfermés dans le mutisme, mais seulement, voilà, ils ne trouvent personne à qui parler. Donc il existe dans les Bouches-du-Rhône depuis plus de 10-20 ans quelques associations qui se battent pour faire des points d'appui, des petites structures locales qui sont formées pour recevoir non pas que des saisonniers français, mais aussi des saisonniers étrangers, et auprès de qui ils peuvent s'exprimer, etc., auprès de qui les problématiques peuvent être soulevées et leurs droits défendus, quoi. Ça, c'est quelque chose qui, en Rhône-Alpes, manque. a priori. C'est le fait de toutes petites associations qui sont les ASTI, les associations de défense des travailleurs immigrés. C'est peut-être le seul relais qu'il peut y avoir pour ces travailleurs-là, sachant que dans le contexte migratoire français, ils se battent davantage sur des problématiques de papier, de travailleurs sans papier. Et en fait, il y a une espèce de manque, en fait. Les travailleurs migrants n'ont pas vraiment de structure sur lesquelles ils peuvent s'appuyer.
Tu as parlé des ASTI. Qu'est-ce au juste les ASTI alors ?
Donc, Association de solidarité avec les travailleurs immigrés. C'est ancien, ça date des années 70. Et repose essentiellement aujourd'hui sur le bénévolat, quoi. Alors qu'ils font un travail qui est colossal, qui est d'accompagner des personnes qui connaissent mal la langue française, qui connaissent mal leurs droits. Dans le dispositif, n'importe qui galère à remplir sa fiche d'impôt, RSA, machin, quoi que ce soit. Bon, imaginez pour quelqu'un qui ne parle pas français, alors on fait comment ? Comment ces personnes-là font ? Bon, en plus de ça, même au niveau culturel, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir demander d'aide, quoi. Contrairement au mythe de l'étranger qui vient ramasser son RSA et ses allocations, etc. Et compagnie, il y a énormément de personnes en situation de migration qui ne vont jamais demander quoi que ce soit, quoi. Et donc, il faut les amener, il faut les accompagner pour pas qu'ils finissent dans des situations dramatiques, quoi. Ça a été le cas pour beaucoup de travailleurs au moment de leur retraite. Une incapacité à pouvoir mettre ça en place, à trouver une oreille attentive, etc. Bon, voilà, quoi. C'est une question, là, on élargit, c'est une question de politique d'intégration en France aussi, quoi. Il faut quand même qu'il y ait des dispositifs, des structures qui soient adaptées pour faire que tout citoyen français soit citoyen français à part entière, quoi. Et non pas uniquement ceux qui ont grandi, qui ont baigné dans la langue française. On n'est pas sur un îlot isolé. On est ensemble et différents, quoi. Ensemble.
Bon, Simon Perrin et Jean-Loup Meureau, merci d'être passé à la radio pour faire passer ce message qui est effectivement essentiel. Si on veut être correct, restons-le jusqu'au bout et pas entre Français seulement. Et donc, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.
Au revoir. Merci.
Interview. 1-ter-view.
Hey, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.